Radio là, la radio qui est toujours
là.
Pedro, bonjour.
Bonjour Lionel.
Alors nous voilà réunis pour une nouvelle revue littéraire.
Oui.
Et aujourd'hui tu as choisi un roman de Jacques Chessex.
On dit Chessé.
Ah ouais, d'accord, oui. Okay. Autant pour moi. L'Ogre, aux éditions Grasset.
Oui.
Un bouquin qui fait à peu près 230 pages.
En gros, oui.
Alors, qui est Jacques Chessé?
Jacques Chessé, bon, je ne te fais pas date de naissance. Un auteur suisse qui a obtenu donc le prix Goncourt en 1973 et le prix Goncourt de poésie en 2004. Il a commencé par publier des recueils de poésie et par la suite, il a publié une trentaine de recueils de poésie, une vingtaine de romans, ainsi que des nouvelles, des chroniques, etc., etc. Son œuvre a été couronnée à de très nombreuses fois par des prix littéraires.
D'accord.
Voilà. Son œuvre a été marquée par la mort de son père qui est décédé en 1956. Et ça a marqué son écriture. Ce père est toujours omniprésent dans ses textes. Voilà.
Alors, l'ogre, j'allais dire pourquoi ?
Mais l'ogre, justement, l'ogre, c'est le père.
C'était un ogre.
C'est un ogre parce que il a.
Parce qu'il est parti.
Il est décédé donc très jeune, mais il a toujours été, il a toujours, comment dire, bouffé sa vie, envahi sa vie, même après sa mort. Il l'a mangé comme l'ogre mangeait les enfants, quoi.
D'accord.
Voilà.
Ça aurait pu le soulager que son père parte.
Non, parce qu'il l'aimait, malgré tout.
Ben oui.
Voilà.
Alors, tu as mis des petits marque-pages ?
Oui, pour te dire les extraits, mais je vais d'abord te présenter le roman, en gros, non ?
Oui, bien sûr.
Voilà, alors ce roman, c'est l'histoire de Benjamin Calmet, professeur de latin dans un lycée à Lausanne. Il vient de perdre son père, figure écrasante de son enfance, et qui, malgré son décès, viendra hanter et juger ses moindres pensées, ses moindres gestes, désirs et fantasmes. La mort du père ne l'a pas débarrassé du père. Sa présence demeure présente, oppressante dans sa vie au quotidien. Voilà. C'est dans les grandes lignes l'histoire de ce roman.
Merci. Donc les petits marque-pages ?
Mes petits marque-pages.
Extrait.
Dans la scène d'extrait où, au moment de... Il présente son père, en gros. C'était une scène très ancienne, mais qui s'était reproduite des milliers de fois au temps où il vivait auprès de sa famille à Lutry, au bord du lac, dans la maison bouleversée de cris, de disputes, soulevant des peupliers et des sapins. On s'était assis pour le repas du soir. Le père, immense, présidait au bout de la table. La lumière du couchant rougissait son front luisant et doré. Ses bras épais luisaient aussi de lumière orange. Sa force était visible, heureuse. Les muscles et la graisse ferme de sa poitrine soulevaient la chemise ouverte sur la forêt des poils gris entre les mamelles dont les aréoles faisaient deux pointes sous le coton. Autour de lui, la salle semblait plongée dans la nuit. Mais au-devant de l'ombre qui montait du sol, et des coins éloignés de la grande pièce, il y avait cette masse éclairée, concentrée, cet autre soleil infaillible et détestable qui rougissait, qui brillait, qui s'illuminait de tout son pouvoir. Assis à l'autre bout de la table, Jean Calmet écoutait avec répugnance des bruits de bouche de son père occupé à manger. Ses chuintements, ses succions le dégoûtaient comme un aveu sale. On parlait peu. Les frères et les sœurs s'observaient, la mère mangeait très vite, se levait sans cesse, trottait de la cuisine à la chambre, sourit grise, apeurée. Marthe, l'aide de ménage suisse-allemande, fixait son assiette avec un air de réprobation. Le docteur mâchait et déglutissait sans arrêt, mais son regard implacable se posait sur chacun des siens. Il parcourit la tablée de haut en bas, de bas en haut, et Jean Calmet se désespérait d'être, une fois de plus, transpercé par ses yeux tout-puissants qui le fouillaient et le devinaient. Sous leur feu bleu, il devenait livide. Tout de suite, il se sentait transparent, complètement désarmé, incapable de dissimuler quoi que ce fût à ses terribles prunelles. Le docteur savait tout de lui. Le docteur lisait en lui parce qu'il était le maître. Et le maître demeurait épais, massif, impénétrable dans sa force serrée et rubiconde au soleil du soir. La honte et le désespoir poignaient le cœur de Jean Calmet. Son père connaissait ses désirs de larve. Il connaissait la cachette au mouchoir gluant. Il voyait tout d'un seul regard. Jean Calmet baissait les yeux sur son couvert sans pouvoir échapper à l'inquisiteur. La tristesse lui serrait la gorge et il avait envie de se jeter au cou du vieillard, de pleurer toutes les larmes de son corps sur sa poitrine ample et sonore. Car Jean Calmet aimait son père.
Dis donc, imposant le monsieur.
Oui, c'était quelqu'un d'imposant. C'était une bestiasse, comme on dit dans le pays.
Il était beau.
Ah, beau, je sais pas, parce qu'il parle pas de la beauté du père. Il était imposant. Il régnait chez lui, quoi.
Ce poitrail.
Oui.
Alors, moi j'ai cru deviner que il est imposant, il est rabaissant, rien que par son regard. Par contre, il c'est pas quelqu'un qui physiquement va être violent. Il est deux fois plus par sa présence.
Ah ouais, par sa présence, oui. Il est imposant par sa présence, pas réellement par ses faits et gestes. Mmh. Il s'impose de par sa nature, quoi. Mmh.
Un autre extrait.
Alors là, je vais te dire un extrait, je crois, qui parle de sa maman.
Oh là. Voilà. La totale.
Ben oui, je te parle surtout du personnage de l'ogre, mais c'est le fil rouge du roman, parce qu'il se passe plein de trucs dans ce roman. Il y a des histoires d'amour, il y a des histoires avec des amis, mais dans tout ce qu'il fait dans sa vie, comme je t'ai dit dans la présentation, il sent que son père le juge. Même après sa mort, son père juge ce qu'il fait, quoi. Quand il couche avec des femmes, il y a son père qui est là. Son père est tout le temps là. C'est une obsession, ce père. Jean Calmet se sent toujours jugé par son père, malgré que celui-ci soit mort.
Il n'a pas pensé à consulter
Ah non, chez C n'était pas très pour les non. Psychiatres, psychologues. Non, c'était pas sa tasse de thé. Donc, je te lis un extrait où il parle de sa maman. Il ne l'avait jamais connue, cette femme. La compassion le poignait. Elle aussi. Elle, plus que chacun d'eux, avait plié sous le tyran. C'était cassé, c'était détruite. Elle se taisait. Mais son sourire triste disait tout. Elle ne s'était pas plainte une fois. Et l'absence du docteur l'a laissée désertée, comme une ville détruite. Elle avait ouvert de vieux albums de photos. Elle n'avait pas pleuré, mais elle demeurait dans son fauteuil, l'album ouvert sur ses genoux, l'œil fixe, perdu dans la lumière de la fenêtre qu'elle ne voyait pas, scrutant les présences fantomatiques qui avaient peuplé son passé. Ô destin de Samaritaine déchue, infirmière oubliée au fond de l'hôpital désaffecté, en ce moment, le soir tombé sur le tri. Elle devait être demeurée à la même place, sous les barres rouges du soleil couchant, le regard immobile devant sa théière froide. Madame Jeanne-Aimée Calmet, née Rosier, elle était venue des campagnes perdues au pied du Jura. Elle avait été servante, elle avait quitté les fermes, les pâturages, les bergeries, elle était devenue la servante de son père. Jeanne, mes lunettes, Jeanne, ma valise, ma canne, un pot de café. Et c'est ça le gosse que tu élèves mal. Et ces repas que je ne viendrai pas prendre. Attends-moi donc, tu es faite pour m'attendre. Jeanne. Tes mains ont tourné la soupe, cuit la viande, ouvert la bouteille. Je ne viendrai pas. Je rôde, je suis le maître. J'ouvre des ventres, moi. Je fouille dans la chair, je tranche. C'est moi qui menace, qui console, qui guérit. Moi qui donne l'espoir, moi qui veille à la porte de l'empire de la mort. Elle n'ose pas se montrer la mort, la pauvre. Elle recule quand j'arrive. Elle bat en retraite. Elle se terre dans ses domaines. Je coupe, je pince, je fouille, je redresse. J'attache, j'arrache, je recous. Je suis un soldat infatigable, un mercenaire, un légionnaire. Allez la mort, tu ne fais pas peur. Alors vous avez compris, foutez-moi la paix avec vos horaires et vos airs minables. J'ai tous les droits, moi, le guerrier, le maître de la vie. Vous n'avez qu'à m'attendre et me subir. Jeanne, desserre la table. Intacte, elle va se coucher seule dans le grand lit.
Merci. Dis donc, quelle lecture. Tu as mis les tripes.
Ah oui, mais il en parle un peu des tripes, parce que j'oubliais de dire que le père de Jean Calmet est médecin.
Et alors, j'ai pas bien suivi. Il fait quoi comme métier, cet ogre?
Eh bien, je te l'ai dit, médecin. Je
ah,
te l'ai
excusez-moi,
dit, c'est un
pardon.
médecin.
Excusez-moi,
C'est un
j'étais ailleurs.
médecin.
Dis donc, pour un médecin,
Ouais, mais c'est.
y a beaucoup de bienveillance et de compassion.
Oui, c'était un mec d'un bloc, quoi.
Et alors, oh là là, cette femme.
Ah, la femme soumise, et puis toute la famille soumise au maître, quoi, qui règne sans discussion sur sa petite famille.
Et alors, sans aller dans les détails, est-ce qu'on a une description, à un moment ou un autre, du pourquoi? Pourquoi cet homme est-il comme ça?
Ah non, parce que le père est omniprésent, mais dès le départ, le début du roman commence par les obsèques, la crémation du père, et il n'en parle plus que par allusion, quoi. Après, il a des réminiscences de certaines situations de famille où ce père était dictatorial, mais il ne parle pas de sa jeunesse, de la vie de famille, il ne parle que de ces moments où il s'est imposé à sa famille.
Un autre extrait, tu peux m'accorder cette prochaine lecture?
Ah, si tu veux, c'est quoi que j'ai choisi à la fin? L'image. Voilà, je voulais lire à partir de là, l'image.
D'accord. L'image rappelait d'étranges souvenirs à Jean Calmet. C'était un jeu très ancien. Il devait avoir 3 ou 4 ans, et il ne s'en souvenait jamais sans retrouver avec un frisson l'espèce d'horreur que lui inspirait le bruit du couteau sur la pierre rêche. Le docteur venait de rentrer de sa tournée, le visage rouge, en sueur, ou les cheveux collés par la pluie. On avait fini de souper, les grands étaient remontés dans leur chambre, la bonne lavait la vaisselle, à la grande table d'en bas, seul était resté Jean Calmet et sa mère. L'enfant coloriait des dessins en chantonnant. Madame Calmet tricotait. Soudain, l'auto. La porte qui claque, les pas lourds et pressés dans le gravier, la porte d'entrée du bruit dans le vestibule et le père pénètre dans la pièce. Son couvert est mis au bout de la table, devant l'horloge plus haute que lui. Il tape sur l'épaule de sa femme, il soulève Jean Calmet, le bouscule, le houspille, l'embrasse, corrige d'un trait son dessin, se moque, l'embrasse encore, repose l'enfant qui reste debout devant le soupeur affamé. Madame Calmet apporte de la viande, verse un nouveau verre de vin. « Pourquoi restes-tu planté devant moi ?» s'écrie le docteur qui fixe Jean Calmet dans les yeux en mastiquant sa viande à grandes dents. Un silence pendant lequel les yeux farouches ne le quittent plus. « Je vais te manger si tu ne t'enfuis pas. Je vais te manger pour mon souper, mon pauvre Jean !»
Moi, je ne lis pas la suite, mais enfin, il prend son couteau, il prend le gamin, il fait semblant de lui trancher la gorge, de le bouffer. C'est impressionnant, quoi, comme situation.
J'avoue qu'il y a une intensité, c'est...
Ouais. Ah, mais c'est une écriture très sensuelle, l'écriture de Jacques Chessé. C'est, comment te dire... Il y a de l'érotisme, de la transcendance, c'est charnel, c'est excessif, c'est religieux, c'est vraiment particulier. C'est un gars qui a lu la Bible, le Testament, et qui fait souvent référence à des trucs religieux dans ses écrits, alors qu'il y a des passages d'un érotisme très poussé, quoi. C'est vraiment particulier, Jacques Chessé.
Et on ressent...
Pour Jacques Chessé, la représentation du Dieu, c'est la femme.
Ah
ouais. Ouais, pour elle, la femme, c'est la perfection de Dieu, quoi, un peu.
Pourtant, sa mère...
Ouais, mais il n'était pas croyant. Hein, Mais voilà, tout ça, ça ressort, cette espèce de comment, pas religion, comment dire, je trouve pas le mot.
Comme son père, enfin j'essaye de comprendre, comme son père était le démon, il s'est représenté sa mère comme, même si elle était terriblement soumise,
Ah ouais.
il l'a représenté comme le dieu. Je sais pas.
Ouais, non, c'est. Oui, c'était. Je sais pas si c'était un dieu, mais c'était quelqu'un qui avait tout pouvoir sur sa vie, quoi. Sur leur vie, hein, toute la famille, quoi. Ouais, c'était le dieu omnipotent.
Qu'est-ce qu'on peut dire pour conclure cette revue littéraire, Pedro?
Qu'est-ce qu'on peut dire? C'est
Ouais.
que. Là, tu vois,
Pourquoi
je.
est-ce qu'il faut le lire ce bouquin? Enfin, en même temps, les extraits parlent d'eux-mêmes.
Oui, les extraits, comme je t'ai dit, ce sont des extraits où il n'y a que le père, mais il y a plein de situations dans le quotidien de Jean Calmet qui représentent un peu la vie de tout le monde, quoi. On se cherche, on tente des aventures qui échouent, on a des histoires d'amour qui déçoivent. C'est pour ça qu'il faut le lire, hein, ce roman. Moi, j'ai pris beaucoup de plaisir à le relire, tu vois. J'ai pris.
Ouais, j'ai pris beaucoup de plaisir à écouter les extraits
Donc,
que tu
il
as
y a
choisis.
celui-là que j'aime beaucoup de Jacques Chessé, mais il y en a d'autres que j'ai eu de lui, et je conseille de lire aussi Judas le Transparent, que j'avais beaucoup aimé, et aussi l'histoire d'un un juif pour l'exemple, qu'il a publié
Un juif pour
pour
l'exemple.
l'exemple. Oui, c'est l'histoire dans un village au moment de la guerre 39-45. Dans ce village, il y avait un juif qui menait une vie tout à fait normale. Et sous le poids de l'histoire, les villageois vont lapider ce juif sans raison. C'est un juif pour l'exemple. Sans aucune raison, ils ont tué ce juif. Il y en a plein de romans de Jacques Chessé qui. Il y a une. Je sais pas, c'est une écriture massive. Je sais pas comment l'exprimer. C'est vraiment particulier.
Ça plaît.
Ça plaît. Ouais, il a eu beaucoup, beaucoup de succès littéraire. Je lui dis, il a eu plein de prix littéraires. Et la poésie de Jacques Chessé est très belle aussi.
Une prochaine fois pour la poésie.
Il faudra que je retrouve les recueils.
Bon, je te remercie parce que
De
c'était
rien.
très intéressant.
Mais je te remercie, Lionel.
À bientôt.
À bientôt.